Bienvenue dans la Cour des comptes à régler. Vous êtes avec Cécile Blanche et sur Radio Saint-Afrique.
Je continue mon exploration du domaine des femmes. Après des considérations sur la place des femmes dans les différentes traditions et leur signification culturelle, après l'exploration du cerveau, après l'histoire des sorcières au temps des bûchers, nous voici à l'époque actuelle. Nous allons reparler des sorcières, mais des sorcières d'aujourd'hui, grâce à un livre, « Rêver l'obscur, femmes, magie et politique » de Starwalk. C'est un pavé qui entraîne sur les chemins politiques possibles que n'ont pas pris les femmes pour cause de, dirons-nous, répression masculine. Il est coriace, tout au moins pour moi, qui ne me suis jamais beaucoup intéressée au féminisme. Mais justement, depuis que j'ai commencé cette série d'émissions de contes sur les femmes, je comprends un peu mieux ce qu'est le féminisme, ou plus exactement, les féminismes, car il y en a plusieurs. Par exemple, les féministes du Nord n'insistent pas sur les mêmes revendications que les féministes du Sud. Et puis, il y a les écoféministes, dont fait partie Starwalk. Et là encore, il y a plusieurs lignes d'action divergentes. Les écoféministes qui prônent l'action politique, c'est le cas de Starwalk. Pour elles, ce sont les femmes qui pourront apporter le changement nécessaire de la politique mondialisée et financiarisée, parce que le capitalisme est né quand femmes et nature ont été mis sous domination masculine. Et il y a l'autre mouvement écoféministe, pour qui nature et femme ont un lien spirituel, résumé dans le concept de la terre-mère, et qui entraîne sur les chemins de la spiritualité, voire de l'ésotérisme. Chemin qui a le même but cependant, renverser les valeurs actuelles de l'exploitation tous azimuts. Et d'ailleurs, Starwalk ne se prive pas de faire appel à cette terre-mère pour la mise en place de stratégies d'action. Avec Starwalk, la plus grande difficulté pour en parler et essayer de résumer sa pensée, du moins à mon sens, c'est l'utilisation de termes comme magie, culte, rituel, sorcière, et ne pas les confondre avec une quelconque religion. Car ce que propose Starwalk, ce n'est pas un culte de la déesse, comme une lecture rapide pourrait le suggérer, remplacer une religion par une autre. Non. Elle propose des techniques pour agir efficacement sur la politique et renverser nos paradigmes. J'adore ce mot. En voici une définition. Un paradigme est une représentation du monde, une manière de voir les choses, un modèle cohérent de vision du monde qui repose sur une base de règles définies. Et voici une autre définition pour compléter. Paradigme, conception théorique dominante ayant cours à une certaine époque dans une communauté scientifique donnée, qui fonde les types d'explications envisageables et les types de faits à découvrir dans une science donnée. Ce qui veut dire que le paradigme débouche sur un conformisme qui filtre la réalité. On peut changer communauté scientifique par communauté économique ou financière. Domaines dans lesquels, vous conviendrez, un changement de paradigme s'impose et urgemment. D'ailleurs, Starwalk précise bien ce qu'elle entend quand elle parle du culte de la déesse. Il est clair que quand je dis déesse, je ne parle pas d'un être se tenant quelque part en dehors de ce monde. J'entends opter pour une autre attitude. Je propose d'appréhender le monde, les gens et les créatures qui l'habitent, comme sens principal et but de la vie, de voir le monde, la terre et nos vies comme sacrées. La déesse est une constellation de formes et d'associations, faisant corps avec la nature, avec les êtres humains, la chair.
J'ai deux amours qui me hante nuit et jour, le pouvoir et l'argent, mon ambition. et d'être le patron, d'empocher des millions. Je cours ma vie à vendre des produits dont on n'a pas besoin. Ma femme m'attend, je lui fais des enfants, même si je ne les vois pas, c'est bien pour le format. Les plus intelligents des hommes ne sont pas ceux qui gagnent de l'argent. Les plus intelligents des hommes sont ceux qui veulent, ceux qui veulent vivre sans. J'ai deux passions qui pollue ma raison, la bourse et le dollar. Mes exigences, peu importe la souffrance, augmenter la cadence. Comme mes consorts, je veux un coupé sport, c'est très classe et c'est cher. Toute ma fortune, je l'exhibe en costume quand je sors ma Rolex dans les soirées jet set. Les plus intelligents des hommes ne sont pas ceux qui gagnent de l'argent. Les plus intelligents des hommes sont ceux qui veulent vivre sans. Ne sont pas ceux qui gagnent de l'argent. Les plus intelligents des hommes sont ceux qui veulent. Les plus intelligents des hommes ne sont pas ceux qui gagnent de l'argent. Les plus intelligents des hommes sont ceux qui veulent, ceux qui veulent, ceux qui veulent vivre sans.
Un conte pour nous détendre après ces histoires de paradigmes. Et c'est un conte d'Amazonie, les sortilèges de Yara. L'histoire s'est passée voilà de longues années. Personne dans la forêt ne saurait préciser quand. C'est l'histoire de Jaraguari. Jaraguari est un jeune homme, beau comme le soleil et fort comme le jaguar. Il vit sur les rives du rio Curare. Tous les autres Indiens admire son courage et sa dextérité, aussi bien à la chasse qu'à la pêche. Les femmes aiment sa peau cuivrée, ses muscles puissants. Et les anciens, assis sur le pas de leur porte, hochent leur tête en le voyant passer, car il leur manifeste du respect et de l'affection. Toujours souriant, il est gai comme un toucan. Pourtant, un soir que le soleil rougeoyait la cime des arbres, avant de disparaître subitement à l'horizon, Jaraguari retourne dans son village, l'air pensif. Il s'assoit dans sa hutte sans dire un mot, mangeant comme à regret les gâteaux de manioc que lui offre sa mère. Le lendemain et les jours suivants, seul dans sa pirogue, il redescend le fleuve pour pêcher des poissons avec son arc et ses flèches, comme il sait le faire. Et le soir, il rentre chez lui toujours aussi morose, indifférent aux femmes qui le regardent avec tendresse et aux hommes qui s'inquiètent de le voir abattu. Sa mère, de plus en plus soucieuse, lui demande un soir. « Qu'en est-il de toi, mon fils? Tu étais si gai. Depuis quelques semaines, tu pêches jusqu'à des heures tardives et tu reviens le regard chargé de tristesse. Ne crains-tu pas de te laisser envoûter par les génies qui hantent la forêt à la nuit tombante ?» Jaraguari reste un moment silencieux, puis, les yeux émerveillés, il répond à sa mère. « Je l'ai vu, ma mère, je l'ai vu. Elle nageait entre les fleurs d'une petite rivière qui se jette dans le grand fleuve. Elle est belle comme la lune. Je l'ai vue, ma mère. Elle a une chevelure dont la couleur est celle du soleil. Ses yeux sont verts comme l'émeraude. Et son chant est plus émouvant que celui de tous les oiseaux. Je l'ai vue, ma mère. En entendant son fils, la vieille femme se jette face contre terre et se met à sangloter. « Fuis, mon fils! Fuis cette femme !»« C'est Yara. Elle va te faire périr. Ne t'approche jamais d'elle. » Sans dire un mot, Jaraguari sort de la hutte. Le lendemain, à l'heure où le soleil commence à perdre de sa force, il monte dans sa pirogue et se laisse porter par le courant. Les Indiens, qui pêchent sur la rive du rio Curare, l'aperçoivent de loin. « Venez voir! Venez voir !» Enlacée à Jaraguari, une belle jeune femme, aux longs cheveux couleur de soleil et aux yeux verts, l'entraîne vers le fond du fleuve. Et en quelques instants, le soleil disparaît derrière la cime des arbres. Jamais Jaraguari n'est revenu. Depuis, craignant d'être entraîné par Yara au fond des rivières et des lacs, les Indiens évitent de s'en approcher à la tombée de la nuit. Ils savent qu'ils ne pourront résister au sortilège de la mer des eaux.
Mes mains s'agrippent à la terre, l'aube lave mon visage. Dans un cri qui me soulage, je m'éveille à la lumière. Une vague souvenance qui serpente et qui se cache d'un cocon flexible et dense dont il faut que je m'arrache. J'écarquille sur le monde la lueur de mes prunelles. Chaque son, chaque seconde est une source nouvelle. Ronde lente et forme vague au travers de la lumière qui se qui divague, estompé par mes paupières. Naissance.
Je vais ramper sur le ventre pour appréhender le monde. Je vis. Je suis le centre d'une sphère chaude et profonde. Je vais trouer le silence de mes cris rauques et fragiles. Comme un mendiant malhabile, je mendie ma subsistance.
Mes mains s'agrippent à la terre. L'aube lave mon visage. Dans un cri qui me soulage, je m'éveille à la lumière.
Revenons à Starhawk. Starhawk est une Américaine qui, dès la fin des années 60, s'est engagée dans des luttes écologiques et politiques en écrivant, en participant à des manifestations contre la guerre au Vietnam, contre la construction de centrales nucléaires, contre l'exploitation minière, en créant et en participant à des mouvements de femmes pour un changement de société. Que nous dit Star Woke ? Elle analyse dans un premier temps les ressorts de notre culture, notre enfermement. Et elle rejoint en partie, avec d'autres mots, ce qu'Isabelle Stengers appelle la sorcellerie capitaliste. Et elle appelle cela le pouvoir sûr. Pour Star Woke, la chasse aux sorcières, dont nous avons parlé dans l'émission précédente, est le signe au XVIe et XVIIe siècle du passage de la société féodale à l'économie de marché. Un changement de paradigme, donc. Tout bascule alors. L'économie, la société, les valeurs. Ainsi, l'éradication des sorcières est inséparable des enclosures. Ce vaste mouvement d'expropriation des terres et des ressources naturelles collectives, peu à peu transformées en propriété privée. Cette privatisation a détruit le système de droits et d'obligations mutuelles du village médiéval et empêché l'accès au pâturage, au bois, aux abris, aux herbes thérapeutiques. Les femmes, qui étaient souvent en charge des communs, furent les premières à souffrir de leur disparition. La terre est désormais propriété privée, liée, dit Star Woke, à la nouvelle vision du monde qui coupe l'homme de la nature et permet l'exploitation de cette dernière à un degré inconnu jusque-là. Et c'est la fin du monde vu comme interdépendant et interactif, où chaque élément porte en lui une valeur sacrée, qui avait survécu au catholicisme à travers la culture des sorcières. En s'attaquant aux femmes paysannes, qui prennent souvent la tête des mouvements contestant l'autorité et l'Église, en s'attaquant aux femmes âgées qui incarnaient le savoir et la mémoire de la communauté, bref, à celles qui défient l'ordre nouveau, les persécuteurs anéantissent l'idée d'une révolution qui pourrait bénéficier aux femmes, aux pauvres et aux non-propriétaires. Cette nouvelle vision du monde qui date du XVIe siècle, construite par les hommes, mettant l'humanité en position dominante par rapport à la nature, est toujours en action. Les expropriateurs se déplacent dans le tiers-monde, dit Star Woke. Aujourd'hui, on peut dire qu'ils se déplacent partout, détruisent les cultures, pillent les ressources de la terre et des gens, et, ajouterons-nous, empoisonnent tout ce qui vit. L'antidote pour Star Woke consiste précisément à se nommer. Et se nommer sorcière, c'est rendre aux femmes le droit d'être puissantes et même dangereuses. Faire d'elles les héritières des guérisseuses et des sages-femmes. Et ouvrir de nouveaux possibles politiques, artistiques. C'est, dit-elle, se réapproprier un terme qui a été une insulte et la cause d'un immense massacre de femmes. Je vous propose un deuxième conte, L'oiseau de paradis pour femmes, conte de Nouvelle-Guinée. Dans cette famille, le frère aîné était marié, mais le cadet ne l'était pas. Son célibat lui valait d'être traité comme un adolescent, raillé par son frère et exclu des grandes cérémonies. Ce n'était pas faute d'avoir rencontré des prétendantes. Bien des fois, il était revenu de la forêt, le corps griffé par les ongles d'une furtive et intense rencontre. Mais celle qu'il désirait à ses côtés, il la voulait différente. Il voulait une femme aux mille couleurs, les yeux brillants et le sourire timide. Une femme qui chante comme chante la forêt les jours de grand soleil. Une femme qui sache voir que chacun de ses pas était une parade d'amour. Il voulait qu'elle fût celle qui lui donnerait l'inspiration pour danser. Car danser était tout ce qui l'intéressait. Et peu importe, si les mains de cette femme ne déterraient pas beaucoup de tarots, de patates douces, sa présence lui donnerait la force de faire le travail pour deux. Un jour qu'il flânait au bord de la rivière, il aperçut un tourbillon multicolore qui descendait de la cime des arbres. Il n'avait jamais vu cela auparavant. Des dizaines d'oiseaux de paradis coloraient le vent, donnaient à la forêt des brillances enchanteresses. La rivière aux eaux sombres et calmes, reflétaient cette nuée. Tapis derrière un rideau de bambou, il les observe. Stupéfaits, sans le moindre bruit, les oiseaux se posèrent et, passant leurs ailes sur leur bec, enlevèrent chacun leur peau de plume, découvrant les corps bruns de dizaines de femmes. Avec de petits cris de joie, celles-ci plongent dans l'eau. Leurs larges sourires laissent apparaître leurs dents couleur de lune. Leurs yeux brillent comme des soleils. Elles nagent, s'éclaboussent, elles chantent, leurs voix se répondent. Puis, une des jeunes femmes attire plus particulièrement son attention. Quelle est cette femme aux mille couleurs? Une femme qui chante comme chante la forêt le jour de grand soleil. C'est la femme pour qui chacun de mes pas de danse, chacun de mes gestes seront parades d'amour. C'était elle qu'il voulait. Mais comment l'approcher sans l'effrayer? Il passe l'après-midi à l'observer, subjugué. Puis, par petits groupes, les femmes sortent de l'eau pour revêtir leur peau de plume et dans un même tourbillon, elles s'envolent pour dépasser la cime des arbres. Alors, il s'endort jusqu'au milieu de la nuit. En quittant sa cachette, il ne cesse de penser à ce qu'il a vu. Les jours qui suivent, il retourne près de la rivière. Peut-être avait-il rêvé. Peut-être des esprits l'avaient-ils possédé. Car possédé, il l'était, hanté par la vision de cette jeune femme oiseau. Reviendrait-elle? Il dort très peu, se réveille plusieurs fois par nuit. Fumant une liane, il observe le ciel, guettant le vol d'un oiseau. Nuit après nuit, ses yeux et son corps se creusent. Puis, un matin, il sut ce qu'il devait faire. Il part, sa hache à l'épaule, il coupe des branchages fins et souples, il les assemble en forme de pleine lune. Il enchevêtre feuilles, fougères et mousses. Voici un nid douillet pour ma belle oiselle, pense-t-il. Puis il retourne près de l'eau pour attendre le retour des oiseaux. Longue est son attente. Mais alors que la rivière prenait les reflets mordorés des premiers rayons du soleil, il reconnaît, descendant le long des lianes piquées d'orchidées, le vol des oiseaux rares. Il reprend sa place derrière les bambous, plante des feuilles dans ses cheveux, revêt un manteau de lianes et attend. Comme la première fois, elles passent leurs ailes sur leur bec, le long de leur tête, et les oiseaux de paradis font ainsi glisser la peau de plume sur leur dos, laissant découvrir leur corps nu. La jeune femme qui avait enflammé son cœur est là. Plutôt qu'une parade amoureuse pour première approche, il choisit la ruse du pêcheur. Son trident en main, il emmêle les cheveux de la jeune femme et la tire hors de l'eau. Elle hurle, se débat. Sans hésiter, il la traîne jusqu'à l'arrière des bambous. Ses cris font fuir en un instant toutes les autres jeunes femmes. Dans la panique, elles reprennent leur apparence et s'envolent. Sur la berge, une seule peau couverte de plumes. Le jeune homme s'en saisit et la cache au milieu des feuilles amassées dans son filet. « Ma peau! Où est ma peau? J'ai perdu ma peau !» La captive tâte le sol de ses grands bras maigres. Ses yeux brillent de larmes. Égarée, elle se recroqueville sur elle-même. Debout, il regarde sa prise comme un chasseur regarde avec fierté ce que la forêt lui a donné. Quand elle reprend ses esprits, il la questionne. « D'où viens-tu ? Ici est la seule terre que j'ai foulée de mes pieds. Et toi, d'où viens-tu ? Cette forêt est ma grande et seule maison. » Lui faisant signe, il la guide jusqu'au nid qu'il l'avait construit. Instinctivement, la jeune femme s'y installe. Quand elle se retourne, quelle ne fut pas sa surprise ? Son ravisseur balance ses bras tout en sautant sur place. Il va de la gauche vers la droite, poussant de petits cris, fléchissant pour se redresser de manière spectaculaire. Il danse. Elle est charmée, hypnotisée. « Viens avec moi dans mon village, » lui dit-il. Elle refuse. Il insiste. « Je danserai pour toi, et ton regard sera comme la surface de l'eau qui dort. Ton regard me dira si le geste est comme il doit être. Tu seras ma beauté, la beauté de ma danse. » Elle accepte. Il s'installe là où il habitait. La peau de plume, il la cache bien roulée dans une écorce, sous sa demeure. Puis il lui raconte comment il avait grandi, les humiliations de son frère aîné. Il lui raconte son amour pour la danse, bien plus que pour la chasse, sa solitude, son désespoir de ne pouvoir le partager. Mais il savait qu'avec elle, tout serait différent. La jeune femme apprend les gestes qui font naître les ignames et les patates douces dans la terre, les tarots, le sagou. Surtout, elle devient celle qui découvre les nouveaux pas de danse pour les cérémonies. Il devient un danseur renommé et tous attendent la fête suivante pour admirer la beauté de ses parures et la manière de les mouvoir au rythme des tambours. Il est comblé. Elle n'a rien oublié. Elle a l'habitude de retourner à la rivière. Ses yeux cherchent toujours, parmi les racines et les branchages, la moindre trace de plume. En vain. Mais le remarie, voyant sa femme toujours en quête de sa peau, la change de cachette. Il la coince derrière la sculpture sur le faîte de la maison. Un jour que le soleil brille, elle voit, sur le sol, l'ombre dessinée par le toit de sa maison et la sculpture de ses plumes. Elle lève la tête et a un haut le corps. « Toi, c'était donc toi, tout ce temps, tu m'as menti. D'une main, tu me caresses, de l'autre, tu me tiens attaché. C'est toi qui as caché ma peau de plume tout ce temps. Tu as fait de moi ta prisonnière, pas ton épouse. » Les mots de la jeune femme sont comme des flèches pour lui. « Tout ce temps, je n'ai eu qu'une crainte, c'était que tu t'envoles, à nouveau. » Il est désespéré. « Alors, tu le savais, je suis femme et oiseau du paradis. Tu m'as privé d'une partie de moi-même pour avoir ta place d'homme danseur. » Puis, elle s'adoucit. « Finalement, je te comprends. Toutes ces années, tu m'as charmé comme un oiseau de paradis. J'ai aimé tes danses et je m'y suis accoutumée. Mais aujourd'hui, je reprends ma peau de plume. Je ne te quitte pas. Je serai là. » Pour me baigner chaque lendemain de pleine lune, je descendrai le long des lianes piquées d'orchidées. Alors, tu viendras sur le bord de la rivière. Tu danseras et tu deviendras oiseau pour me séduire. Et je resterai femme une journée et une nuit à tes côtés. Décrochant du toit sa peau de plume, elle la glisse sur son dos. Elle donne un dernier sourire à celui qui l'avait accueilli, puis s'envole. Longtemps, les nuits de pleine lune annoncèrent leur retrouvaille. Et quand il en eut brillé autant qu'il y avait eu d'orchidées piquées sur les lianes enchevêtrées, c'est ensemble qu'ils s'envolèrent pour danser et s'aimer dans les airs du monde d'à côté.
Dans mes bras, je ferai sans l'espoir de sentir près de moi ta présence et ta chaleur. Je ferai sans. Je fais taire au fond de moi les mots d'amour comme on étouffe une rumeur. J'oublie l'avenir à contre-cœur, le présent, je ne fais que l'effleurer. Je ferai sans. Je ferai semblant. Je ferai. Que tu me réponds.
révèle quand les forces m'abandonnent. Je ferai sans tes appels et ta voix que j'entends, que j'attends constamment. Je ferai sans, même si je m'implique à ne pas ignorer tes raisons, tes arguments. Ton souvenir à la force d'un coup de poing que je prends en plein dedans. Je ferai sans, je ferai semblant, je ferai sans, je ferai semblant. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. L'être vous manque et tout est dispersé. Je cherche alors la nuit pour m'évader du jour qui a mis en lumière ton regard qui me suit. Qui me suit. Qui me suit. Je remonte à courant la force du torrent qui m'attire à toi. Je m'agrippe à tout ce que je peux, à défaut de m'agripper à tes doigts. Je m'agrippe à tout ce que je peux. Je m'agrippe à tout ce que je peux. Je m'agrippe à tout ce que je peux.
Sur et du pouvoir du dedans, de l'immanence et de la transcendance. Et cette distinction, elle la décline en termes d'opposition. La hiérarchie, l'échelle, c'est le pouvoir sur, alors que le cercle, c'est le pouvoir du dedans. La conscience, ce que la culture nous impose en l'intériorisant, c'est le pouvoir sur. La transcendance, le langage des choses, c'est le pouvoir du dedans, l'immanence. C'est aussi la différence entre religion et magie, prêtre et sorcière. Ces exemples peuvent nous aider à comprendre ce que veut nous dire Starwalk, cette distinction entre les deux pouvoirs, entre ce qui nous est imposé et a été intériorisé, la conscience, bonne ou mauvaise, qui nous paralyse, et les forces que nous pouvons trouver en nous pour nous libérer. Je cite, « Le pouvoir du dedans est plus qu'une sensation, qu'une illumination. Il implique notre sens de connexion avec les autres, notre connaissance de l'impact que nous avons sur les autres. On nous enseigne à servir d'abord notre propre intérêt, à être compétitif. Nous sommes donc contrôlés par les promesses et les menaces. Le pouvoir sûr est un étau, un crampon qui nous tient grâce à nos espoirs et à nos peurs. Starhawk est pragmatique. Pour elle, créer des rituels, ce n'est pas se laisser entraîner vers une spiritualité désincarnée, mais le moyen de lier entre eux les individus, et suffisamment pour qu'ils osent penser autrement, rêver, entrer en empathie et agir pour la réalisation d'une utopie commune. Le seul moyen de changer les codes. Elle nous dit, tant que nous nous sentons impuissants dans les arènes politiques et sociales, nous ne pouvons pas être libres. Pour retrouver notre pouvoir, nous devons entrer dans le territoire des menaces réelles, grâce auxquelles notre culture nous contrôle. Le territoire de notre quête va au-delà du soi individuel et de la nature sauvage. Il est aussi dans la rue, vers les usines nucléaires, les laboratoires militaires, les prisons. Il va là où se joue le drame, là où se déroule la bataille de notre temps. Pour changer la culture, nous devons nous relier à l'aide de nouvelles manières. Nous devons changer les structures de nos organisations et de nos communautés. Starwalk utilise les mots qui justement nous défrisent, et plutôt que de se bloquer sur leur signification usuelle, on peut essayer de comprendre autrement, de les définir pour nous. La signification usuelle, nous dit-elle, vient du pouvoir sur. Nous les redéfinissons pour nous avec le pouvoir du dedans. Parler de magie, c'est parler de changement, de techniques qui permettent le changement. Je retrouve là ce qu'enseigne la PNL, programmation neuro-linguistique. Attention, pas celle de « devenez leader en 5 leçons », non. La PNL des thérapies brèves du changement intérieur intime. D'ailleurs, et ce n'est pas un hasard, l'une des éminentes praticiennes en PNL a justement appelé un de ses bouquins « L'esprit de la magie ». Et c'est aussi ce que font les sorciers, les chamans. On dit qu'ils font de la magie. Ce qu'ils font, c'est de provoquer un changement de point de vue chez ceux qui viennent les consulter. Pour nous libérer, pour invoquer le pouvoir du dedans, nous devons être prêts à aller au-delà de nos intérêts personnels. Dans une communauté, nous avons le pouvoir de nous guérir et de nous aider l'un l'autre. Dans la deuxième partie de son livre, Starwalk décrit les pratiques, les rituels utilisés dans les cercles de femmes, les cercles des sorcières néo-païennes et autres cercles. Il y en a de multiples. Pour créer cette connexion entre les individus, se retrouver sur une pensée commune et créer une énergie qui permette d'agir ensemble avec une plus grande efficacité et peut conduire au changement dans l'action politique et le changement de politique.
Quand je dors toute seule, je me dis Dieu, ce serait bon de partager mon lit avec un garçon. Quand je partage mon lit avec un garçon, je me dis dormir toute seule, Dieu, ce serait bon. Ah non, mais vraiment, je ne sais pas choisir, c'est bien embêtant. C'est tellement troublant, laissez-moi dormir. Quand chez l'Indien, je prends un poulet tikka, je me dis ça serait mieux un agneau korma. Quand finalement je mange des gambas au raisin, je me dis j'aurais dû prendre végétarien. Ah non, mais vraiment, je ne sais pas choisir, c'est bien embêtant. Laissez-moi dormir quand je veux me jeter du pont du carrousel. Je me dis finalement non, la vie est belle. Quand quelqu'un me dit Dieu que la vie est belle, je voudrais me jeter du pont du carrousel. Ah non, mais vraiment, je ne sais pas choisir, c'est bien embêtant. C'est tellement troublant, laissez-moi dormir. Quand je veux mourir le mercredi matin, je me dis ça peut attendre jeudi matin. Quand je me réveille le matin du jeudi, je me dis j'aurais dû mourir mercredi. Ah non, mais vraiment, je ne sais pas choisir, c'est bien embêtant, je vous le fais pas dire. Ah non, mais vraiment, je ne sais pas choisir, c'est tellement troublant, laissez-moi dormir. Ah non, mais vraiment, Je ne sais pas choisir, c'est bien embêtant. Je vous le fais pas dire, ah non mais vraiment. Je ne sais pas choisir, c'est tellement troublant. Laissez-moi.
Un dernier conte, hawaïen celui-ci, l'eau. Il y avait dans la mer une très grande île, si grande que ses habitants qui vivaient au cœur de l'île n'avaient jamais vu la mer. Ils habitaient un unique village situé dans une grande plaine qui occupait tout le centre de l'île. En fait, ils ne savaient même pas que la mer existait. En plein milieu du village, il y avait un puits qui donnait une eau claire et abondante avec laquelle les villageois arrosaient leurs jardins. Ils récoltaient à profusion des fruits, des légumes, des fleurs, du miel. Ils élevaient des moutons. La vie s'écoulait heureuse. Mais un jour, l'eau du puits a disparu. Toute la vie du village a été bouleversée. Tout est devenu plus difficile. L'angoisse a remplacé l'insouciance et la joie de vivre. Alors, les villageois ont décidé d'aller chercher de l'eau. Chacun portait deux jarres accrochées à chacun des bouts d'un bâton. Et ils se sont mis à marcher. Or, la grande plaine au centre de laquelle était bâti le village était bordée par une montagne circulaire. Les villageois ont pour la première fois gravit cette montagne, dont les pentes étaient couvertes d'une forêt très dense. Une surprise les attendait tout en haut. Ils découvrirent qu'une seconde montagne circulaire se dressait à l'horizon, séparée de la première par une vallée très verte. Ils ont pensé qu'ils trouveraient certainement de l'eau dans cette vallée, et ils sont descendus. Mais ils n'ont pas trouvé la moindre source. Ils ont donc entrepris de gravir la seconde barrière de montagneuse. Hélas, arrivés tout en haut, ils ont constaté qu'une troisième ligne de sommet ininterrompue encerclait la seconde, comme un immense anneau. Alors, ils ont perdu courage, ils ont renoncé à poursuivre leurs recherches et ont décidé de faire demi-tour, de retourner au village, car ils avaient peur de se perdre. Tous sont répartis. Tous ? Non. Une femme s'est dit « Moi, je continue. » Elle a gravi la troisième montagne qui était plus haute que les deux autres. Arrivée en haut, elle n'en a pas cru ses yeux. Une étendue d'eau absolument incroyable. Une étendue d'eau tellement vaste qu'elle ne pouvait jamais entrer tout entière dans l'œil de la femme. Elle était obligée de se tourner. Elle n'arrivait pas à comprendre comment cela était possible. Aussi vite qu'elle a pu, elle est descendue vers cette eau. Elle a couru jusqu'à elle. L'eau était là, à ses pieds, car elle arrivait jusqu'en haut de la plage. Elle a rempli ses deux jarres, et avant de repartir, elle a bien regardé. Mais encore une fois, sans comprendre. Puis elle a pris, sans plus attendre, le chemin du retour. Maintenant, la charge était lourde. Elle a eu du mal pour monter. Elle a mis des heures pour cela. Elle est enfin arrivée en haut. Là, elle s'est retournée pour revoir encore une fois cette grande étendue d'eau. Une nouvelle surprise l'attendait. L'eau avait reculé. Elle n'était plus là où la femme avait rempli ses jarres, mais bien plus loin, après une zone encore mouillée, mais où l'eau n'arrivait plus. Alors elle a compris. En remplissant ses jarres, elle avait fait baisser le niveau de l'eau. Elle a beaucoup réfléchi. Et elle a décidé de remettre l'eau où elle l'avait prise. Aussitôt, elle est retournée vers l'eau. Cette fois-ci, elle a dû marcher longtemps sur le sable pour la rejoindre. Elle a vidé les deux jarres, puis est repartie vers son village. Elle était fatiguée et elle a mis à nouveau plusieurs heures pour arriver,
pour la seconde fois au sommet de la première ligne de montagne. Et là, elle s'est encore retournée. Alors, son visage s'est éclairé d'un large sourire, car elle a vu que l'eau était remontée à son niveau initial. Comme elle était contente d'avoir rendu à la grande étendue d'eau le contenu de ses jarres. « Heureusement, s'est-elle dit, que j'ai fait cela. » Elle était tout à fait rassurée. Elle a repris sa marche vers le village. Il lui a fallu 3 jours pour y revenir, tellement elle était épuisée. Quand ils l'ont aperçue, les villageois ont couru vers elle, en criant de joie, et ils lui ont expliqué que l'eau était revenue dans le puits, revenue depuis 3 jours. Elle a réfléchi, et elle a compris. Elle a compris que c'était au moment même où elle avait rendu à la grande eau le contenu de ses jarres. C'est à ce moment-là que l'eau était revenue dans le puits. Alors, elle s'est dit qu'elle n'avait pas marché pour rien.
La terre colle à mes sabots, ne saurait m'en défaire. Le ciel me pèse sur le dos, j'ai pleuré les rivières, j'ai sangloté tant de ruisseaux, mes doigts sont rivés à mon seau. Porteuse d'eau pour ma vie tout entière, la 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 la. La 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 la. Je suis taillée dedans ce bois qui en manche les bêches, celui duquel on fait les croix, parfois aussi les flèches. J'ai les semailles au fond de moi et les vendanges au bout des doigts. Et dans ma voix, le chant des herbes sèches. La 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 la. Ma seule chaîne est celle d'un puits, j'ai l'âge des fontaines, l'humeur du temps qui change et fuit, la patience des graines. 4 saisons filant sans bruit, le jour et puis un jour la nuit, la mort et puis que la terre me prenne. La 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 la.
Ce numéro de la Cour des comptes arrive à son terme. L'analyse du livre de Starwalk appellerait encore de nombreux développements. Mais pour l'instant, nous allons en rester là. L'illustration musicale était assurée par La Mordue, Daniel Messia, Pauline Croze, Émilie Loiseau et Anne Sylvestre. Je ne sais pas encore de quoi sera faite la prochaine émission de la Cour des comptes et sur Radio Sainte-Afrique, mais il s'agira toujours de femmes. Et ce sera le vendredi 5 mai à 21h, comme d'habitude. Avant de nous quitter, quelques pensées profondes. Celles-ci sont extraites d'un livre intitulé « Vers le mariage » et datent de 1953. Je cite « Admirez comme Dieu a merveilleusement disposé la femme dès ses jeunes années à remplir cette grande et sublime mission d'épouse, de mère dévouée et de ménagère accomplie. Alors que le petit frère, dès sa sortie du berceau, prend plaisir à vaincre les résistances, à s'affirmer, à commander, la fillette, elle, prend plaisir à aider sa mère en cuisine, dans la lessive. Voyez ses jeux avec la poupée. Ne nous donne-t-il pas déjà une idée des qualités dont elle fera preuve plus tard comme mère dévouée? Le cœur de la mère est l'un des chefs-d'œuvre de la bonté et de la puissance de Dieu. Alors, la différence homme-femme, culture ou nature? Bonsoir.